J'ai plaqué mon chêne comme un saligo, mon copain le chêne, mon alter ego. On était du même bois, un peu rustique, un peu brut, dont on fait n'importe quoi, sauf naturellement les flûtes. J'ai maintenant des frênes, des arbres de Judée, tous de bonnes graines, de hautes futaies. Mais toi tu manques à l'appel, ma vieille branche de campagne, mon seul arbre de Noël, mon mât de cocagne. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Je suis un pauvre type, j'aurais plus de joie, j'ai jeté ma pipe, ma vieille pipe en bois, qui avait fumé sans se fâcher, sans jamais brûler la lippe, le tabac de la vache enragée. Dans sa bonne vieille tête de pipe, j'ai les pipes d'écume, ornées de fleurons, de ces pipes qu'on fume en levant le front. Mais je retrouverai plus ma foi dans mon cœur ni sur ma lippe le goût de ma vieille pipe en bois, sacré nom d'une pipe. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. Le surnom d'infâme me va comme un gant, d'avec ma femme j'ai foutu le camp. Parce que depuis tant d'années, c'était pas une sinécure de lui voir tout le temps le nez. Au milieu de la figure, je bats la campagne pour dénicher la nouvelle compagne. Valencelle-là, qui bien sûr laissait beaucoup, trop de pierres dans les lentilles, mais se pendait à mon cou quand je perdais mes billes. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux. J'avais une mansarde pour tout logement, avec des lézardes sur le firmament. Je le savais par cœur depuis, et pour un baiser la course, j'amenais mes belles de nuit faire un tour sur la grande ours. J'habite plus de mansarde, il peut désormais tomber des hallebardes. Je m'en bats l'œil, mais si quelqu'un monte aux cieux, moins que moi j'y paie des prunes, y a 107 ans qui dit mieux, j'ai pas vu la lune. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû m'éloigner de mon arbre. Auprès de mon arbre, je vivais heureux, j'aurais jamais dû le quitter des yeux.
Le quitter des yeux, hein, la quitter des yeux, mais oui. À force de pas la quitter des yeux, on voit plus que le nez au milieu de la figure.
Ah, oui, c'est l'impertinence du poète ici. On voit dans cette chanson que si l'homme s'éparpille, court de ça de là, il va perdre la substance de son être. Donc il doit avoir un pôle, je le répète, pour se ressourcer lui-même, pour aller à la rencontre de lui-même. Et plus alors l'arbre, c'est intéressant, l'arbre s'enracine, il va au profond, et plus profondes sont les racines d'un être, plus forte sera sa personnalité. Ce danger de l'éparpillement, il faut effectivement le prendre en compte, et ce détournement de soi et de sa substance intérieure. Alors, pour résumer tout ceci, je dirais, je suis d'accord, vous voyez, Redouane, avec l'idée que l'essentiel dans la vie, c'est la relation avec l'autre. Ça, absolument d'accord. Mais il faudrait pas que cette relation avec l'autre soit une occasion de se fuir soi-même, vous voyez. Donc, il faut d'abord se réunir à soi-même, se ressourcer, se centrer, après on s'ouvre vers l'autre, hein, et la relation sera authentique, hein, et aussi l'autre sera respecté.
Ouais, c'est une manière de ne pas vampiriser l'autre.
Absolument.
Hein, c'est deux identités, justement. Je veux dire, la valeur de l'identité de l'autre, l'échange ne s'enrichit que dans la distance qu'à un moment donné on peut prendre l'un de l'autre.
Sinon, voilà.
À quoi bon
Absolument. Je suis oui, là nous tombons d'accord.
Alors donc, les deux premières parties de notre émission, c'était Amour et solitude. Et là, on va aborder la troisième partie qui va ouvrir un nouveau chapitre, donc Amour et sacrifice.
Voilà, Amour et sacrifice. Alors, je vais parler d'agapé et des dangers qui guettent agapé. Agapé, c'est l'amour oblatif, l'amour de don, l'amour d'offrande. Eh bien, on relie souvent agapé au sacrifice de soi-même. Alors là, l'origine de cette idée est chez nous manifestement religieuse. Ainsi, on lit dans l'Évangile, « Il n'est pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Évangile selon Jean, chapitre 15, verset 13. Alors, derrière cette phrase qui est prononcée par Jésus, on voit évidemment l'idée de mort expiatoire et rédemptrice du Messie. Par quoi se définit encore le christianisme majoritaire? J'insiste bien, le christianisme majoritaire, parce qu'il y a d'autres christianismes que celui-là. Alors il est évident que cette vision sacrificielle de l'amour peut déteindre encore sur tout amour profane. Pourquoi? Parce que toute notre culture est modelée par 20 siècles de christianisme et que nous avons été longtemps invités dans cette culture à imiter Jésus. Par exemple, vous voyez la fameuse imitation de Jésus-Christ. Alors, cette conception, il convient cependant d'en faire un peu l'archéologie. Sa racine se trouve dans les textes de l'apôtre Paul, qui sont inspirés pour moitié du serviteur souffrant du chapitre 53 d'Isaïe, et pour moitié des mystères païens où un dieu meurt pour le salut de ses fidèles. Voyez l'histoire d'Adonis, d'Attis, de Dionysos, de Mitra, d'Osiris, etc. Ainsi, on lit dans ce qui est le premier credo chrétien, le premier kérigme, la première proclamation chrétienne, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. C'est la première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 3. Et à cela, on peut faire d'abord deux remarques. Premièrement, il existe d'autres types de christianisme qui sont non sacrificiels, par exemple le christianisme gnostique, et ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas majoritaires qu'ils ne sont pas intéressants. Ils ignorent à la fois la mort et la résurrection rédemptrice du Sauveur, pour n'insister que sur la nécessité de se redresser spirituellement dès ici-bas, pour mourir enfin comme tout le monde. Ainsi on lit dans l'évangile de Philippe, à tendance gnostique, je cite, « Ceux qui disent que Jésus est mort et puis est ressuscité se trompent. En réalité, il est d'abord ressuscité et puis il est mort. » Fin de citation. Et cette position ne me semble pas du tout sans intérêt. Je fais même ici une litote, si vous voulez. Deuxièmement, dans le passage johannique que j'ai cité, qui concerne le bon berger se mettant en peine pour protéger ses brebis contre les prédateurs, le texte reçu n'a pas donné sa vie, mais simplement exposé sa vie. En grec, vous avez « titeistai », dans le grec initial, et dans le latin de la Vulgate, qui traduit le grec initial, vous avez « ponere », posé, exposé. On peut donc préférer exposer sa vie à donner sa vie. En effet, les brebis pourront encore dans le futur avoir besoin du berger pour les protéger, et sa mort aujourd'hui ne serait qu'un salut provisoire. Par exemple, je prends un exemple, Redouane, si je vois quelqu'un en train de se noyer, je dois plonger pour le repêcher, mais non pas me noyer moi-même. Car cette personne-là peut encore, une fois qu'elle a été sauvée, avoir besoin de moi pour l'aider. Donc ce n'est pas une invitation à mourir, c'est une invitation à mettre sa vie, à l'exposer en quelque sorte, à la risquer. Voilà, risquer sa vie, mais non pas mourir. Cependant, des versions sacrificielles de cette parabole du bon berger sont apparues très tôt, puisque des variantes ont effectivement donné sa vie, en grec « didonai » et non pas exposé « titeistai ». Et en fait, on a projeté sur elle le récit de la Passion, qui a été lui-même réécrit par palimpseste, c'est-à-dire réécriture à partir d'un ancien manuscrit, ou bien par midrash, c'est le même sens, réécriture d'un texte plus ancien, précisément d'après le chapitre 53 d'Isaïe, le serviteur souffrant, ainsi que d'après certains versets des psaumes, le psaume 22 surtout. Et alors, je parlerai du symbole du pélican, hein, qui, selon la légende, déchire sa poitrine pour en nourrir ses petits. Alfred de Musset s'en est inspiré dans sa Nuit de mai, hein, et la représentation du pélican se trouve sur le devant de maints autels dans nos églises. Voyez par exemple pour les Montpelliérains l'autel qui figure dans le déambulatoire au nord de la cathédrale de Montpellier, où vous avez sur l'autel un ornement, hein, qui montre un pélican nourrissant ses enfants de sa propre chair, vous voyez, hein. Donc vous pouvez vérifier cette représentation plastique, hein. On voit dans le pélican un symbole de la figure du Christ donnant sa vie pour sauver les hommes. Déchirer sa propre chair pour en donner des morceaux sanguinolents à manger à ceux que l'on aime, ce serait une version littérale et une version gore, ou trash si vous voulez, ou gore, hein, du fameux « je t'ai donné mon cœur » que l'on entend dans Le Pays du Sourire, hein, vous voyez, dans cette opérette-là. Hein. Bon, un chant liturgique a été écrit à cette occasion, c'est le chant « L'Adorauté » qui mêle l'émouvant et le morbide. Donc, je m'excuse auprès des auditeurs protestants, je viens d'un milieu catholique, j'ai entendu moi-même l'Adorauté, j'imagine que l'on ne le chante pas en milieu protestant. Alors, que dit cette Adorauté? Je t'adore. Mozart en a fait une magnifique musique, hein, sur l'Adorauté. Je le dis en latin, pie pelicane Iesu domine, me immundum munda tuo sanguine, cuius unastilla salum facere, totum mundum quit adom abomnic scelere. Je traduis, doux pélican, Seigneur Jésus, lave mon indignité au moyen de ton sang, dont une seule goutte suffit à sauver le monde de tout péché. C'est la strophe 6 de l'Adorauté. Donc, à partir de là, tout l'Occident chrétien s'est trouvé marqué par cette vision de la mort acceptée, voire recherchée, parce que vue comme expiatoire et salvatrice. Et par suite, l'amour, alors je reviens à mon thème et à mon livre, hein, au sujet de nos émissions, l'amour pour tous ceux qui ont partagé cette idéologie, a pris une coloration sacrificielle. Hein. Il est forcé. Vous voyez, tout se tient, Redouane. On peut parler théologie, au moins épisodiquement, dans une émission sur l'amour, puisque l'amour tel que on le pratique chez nous, tel qu'on le sent, est tout influencé par notre culture. Et la culture, depuis 2000 ans, elle est religieuse, elle est chrétienne, vous voyez. Donc, imaginons quelqu'un qui, au catéchisme, apprend qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce que l'on aime. Quand il va aimer cette personne-là, eh bien, l'autre, il aura la tentation de donner sa vie, et pas seulement de l'exposer, vous voyez.
Entre nous, Michel, moi je préfère donner ma vie que prendre la vie de l'autre.
Ah, c'est certain.
Et c'est toute la question d'aujourd'hui, c'est-à-dire quand on voit un peu les problématiques de terrorisme religieux, le martyr, la notion de martyr, c'est donner sa vie, se mourir pour que mourir en enlevant d'autres vies.
Ah oui, et, je suis absolument d'accord.
Et peut-être que y a à réapprendre pour notre époque cette question-là, c'est-à-dire on est plutôt dans une démarche structurante. C'est ce qui me motive dans l'effort, c'est que les autres vivent, plutôt que je préfère par amour faire mourir tout le monde. C'est comme ça qu'il y a des drames dans l'amour, ou des couples, parce qu'il y en a un qui veut quitter l'autre.
Oui, moi je pense à au film de Lars von Trier, Breaking the Waves, hein, le sacrifice de l'héroïne pour que l'homme qu'elle aime puisse vivre. Alors, écoutez, moi je suis d'accord, c'est très beau, très émouvant, cela fait pleurer, mais sur le fond quand même, Redouane, je m'interroge sur la pertinence de cette idéologie sacrificielle.
Oui, le sacrifice, point besoin.
Oui.
C'est l'amour. C'est-à-dire, comme le dirait toujours Paul dans l'Épître aux Corinthiens, les trois choses restent qui sont importantes, l'amour, la foi et l'espérance. C'est comme un tabouret, hein. Il faut ces trois piliers pour que ça tienne,
oui,
dans,
oui,
un certain équilibre. Mais à un moment donné, confronté à certains aspects, c'est une manière peut-être d'écarter à tout jamais le sacrifice de d'Isaac, c'est-à-dire le sacrifice humain. J'ai point besoin de sacrifice humain, puisque à travers ma relation d'amour pour les autres, pour l'humanité, je vais faire en sorte que les autres vivent.
Oui, moi effectivement, je comprends
parfaitement. Mais c'est aussi dans des situations dramatiques, c'est-à-dire à un moment donné, quand le Titanic coule, on est les enfants, les femmes et les enfants d'abord, c'est aussi une représentation, c'est vrai, sociale, par rapport aux êtres les plus faibles.
Oui, moi je suis d'accord dans l'ensemble avec cela.
Il y a une blague qui disait comme ça, un homme qui criait, les femmes et les enfants d'abord avec moi.
Ah oui, bien sûr, oui. Moi je crois que, l'altruisme est une très bonne chose, il faut quand même aussi penser... penser à soi, alors là on va tout de suite dévaloriser cette attitude, mais je veux dire le sacrifice de soi, il faut voir ce dont l'autre a vraiment besoin, hein, parce que si vous vous sacrifiez pour quelqu'un, je pense à ces mères qui disent à leur enfant, songe que je me suis saigné aux 80 pour toi, que j'ai fait plein de sacrifices pour toi.
C'est
culpabilisant,
oui, tout à fait, c'est plein d'amour,
il ne faut pas s'en faire une un mérite,
c'est
finalement.
C'est un terrorisme agapéen.
Voilà, je suis d'accord. Donc, le mérite, je crois que l'Évangile le dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quel mérite avez-vous? Tina Miston et Kété, cette idéologie du mérite me semble poser problème. Gide dit très bien, je n'aime point ceux qui se font un mérite d'avoir péniblement œuvré, car si c'était pénible, ils auraient mieux fait de faire autre chose. Vous voyez, je crois que c'est dans les nourritures terrestres. Alors, nous allons conclure cette émission sur cette image du pélican. Je signale que c'est une erreur de dire que le pélican déchire sa chair et en nourrit ses propres enfants. En fait, tous les naturalistes nous disent que le pélican emmagasine dans son goître des poissons qu'il va régurgiter après et qu'il va donner à ses petits, vous voyez. Alors nous allons écouter le poème d'Alfred de Musset, Le pélican, qui est tiré de la nuit de mai.
Alfred de Musset, Allégorie du pélican. Que soit le souci que ta jeunesse endure, laisse-la s'élargir, cette sainte blessure que les séraphins noirs t'ont faite au fond du cœur. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur, mais pour en être atteint, ne crois pas au poète que ta voix ici-bas doive rester muette. Les plus désespérés sont les chants les plus beaux, et j'en sais d'immortels qui sont de purs sanglots. Lorsque le pélican, lassé de longs voyages, dans les brouillards du soir retourne à ses roseaux, ses petits affamés courent sur le rivage, en le voyant au loin s'abattre sur les eaux. Déjà croyant saisir et partager leur proie, ils courent à leur père avec des cris de joie, en secouant leur bec sur leur goître hideux. Lui gagnant à pas lents une roche élevée, de son aile pendante abritant sa couvée, pêcheur mélancolique, il regarde les cieux. Le sang coule à longs flots de sa poitrine ouverte. En vain il a des mers fouillées la profondeur, l'océan était vide et la plage déserte. Pour toute nourriture il apporte son cœur. Sombre et silencieux, étendu sur la pierre, partageant à ses fils ses entrailles de père, dans son amour sublime il berce sa douleur, et regardant couler sa sanglante mamelle, sur son festin de mort il s'affaisse et chancelle, ivre de volupté, de tendresse et d'horreur. Mais parfois, au milieu du divin sacrifice, fatigué de mourir dans un trop long supplice, il craint que ses enfants ne le laissent vivant. Alors il se soulève, ouvre son aile au vent, et se frappant le cœur avec un cri sauvage, il pousse dans la nuit un si funèbre adieu que les oiseaux des mers désertent le rivage et que le voyageur, attardé sur la plage, sentant passer la mort, se recommande à Dieu. C'est ainsi que font les grands poètes. Ils laissent s'égayer ceux qui vivent un temps, mais les festins humains qu'ils servent à leur fête ressemblent la plupart à ceux des pélicans. Quand ils parlent ainsi d'espérance trompée, de tristesse et d'oubli, d'amour et de malheur, ce n'est pas un concert à dilater le cœur. Leurs déclarations sont comme des épées, elles tracent dans l'air un cercle éblouissant. Mais il y pend toujours quelques gouttes de sang.
Voilà Michel, donc le Pélican, que vous avez déjà fait découvrir avec votre œil photographique, je dirais.
Oui, à la cathédrale de Montpellier, donc j'engage tous les auditeurs à aller voir dans le déambulatoire nord, je crois, un autel sur lequel figure ce groupe sculpté. Et c'est très très impressionnant. Hein. Donc, de ce poème vient tout le dolorisme romantique. Hein. Rien ne nous rend si grand qu'une grande douleur, ce qu'on appelle le dolorisme. Hein. Alors moi, je veux bien, mais alors relativement à mon thème de l'amour, et je termine par là, quand Agapé, qui est l'amour de don, l'amour d'offrande, va jusqu'au sacrifice, inconditionnel, hein, alors, finalement, il y a un sentiment, de gaspillage. Hein. Bon, j'entends bien, Redon, vous avez raison que montrer son amour à quelqu'un, c'est accepter de mourir pour lui. Bon, je veux bien, en théorie, c'est vrai, mais dans la vie pratique, c'est-à-dire pour qu'un couple dans la durée fonctionne, il ne faut pas que l'un d'eux se sacrifie, vous voyez, à l'autre. Je crois que vous en serez d'accord avec ça. Hein. C'est beau le sacrifice, mais quand Paul nous dit l'amour supporte tout, je reprends l'exemple dans 1 Corinthiens 13, hein, l'exemple que j'ai déjà dit, si une femme est battue par son mari, doit-elle le supporter, vous voyez, parce que Paul a dit l'amour supporte tout. Et si on lui a dit cet hymne...
Tout dépend ce que c'est supporte tout.
Ah voilà, tout dépend, oui, ce qu'on entend par supporte tout. Donc,
parce que là, dans le cas présent, ce n'est plus de l'amour.
Non.
Une femme battue, c'est pas de l'amour.
Ah oui, l'autre ne l'aime pas, bien sûr, hein. Mais il y a là un dolorisme un peu masochiste qui me semble un petit peu suspect.
Merci Michel. Voilà, donc nous continuerons la semaine prochaine. Amour et sacrifice, toujours rendez-vous hebdomadaire le jeudi à 10h10, juste après les informations. On vous souhaite de découvrir tous ces aspects-là. C'est vrai que en ce temps de carême, la question du sacrifice avec Pâques, le Vendredi Saint, est une manière de réfléchir à toute cette problématique. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même longueur d'onde, toujours avec le même plaisir et en compagnie de Michel. Au revoir Michel, merci à vous.
Au revoir à tous.